deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut, quand on veut.
On rencontre des personnes différentes, très différentes les unes des autres. Et c'est... ça, c'est génial aussi.
À deux pas de chez toi.
Pour qu'ensemble, nous puissions créer un nouveau monde dans lequel les femmes sont plus solidaires, plus unies, pour créer un monde où règne l'amour, la solidarité, l'entraide.
Prenez le temps d'explorer ce qui se fait sur notre territoire avec Radio Primitive. Bonjour et bienvenue dans À deux pas de chez toi. Cette semaine, on vous présente un rendez-vous unique pour discuter de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Le colloque national des espaces de réflexion éthique, ce sera les 12 et 13 novembre à Reims. Mais avant cela, on célèbre la solidarité internationale avec le Festisol. Le Festisol, ça commence un peu partout en France, mais également, comme chaque année, à Reims. Il y en a trop peu des festivals qui célèbrent l'ouverture aux autres. Alors Radio Primitive a ouvert ses micros à certains des membres organisateurs à Reims du Festisol pour qu'ils vous parlent du programme qui vous attend à partir du 14 novembre.
Céline, animatrice culturelle pour l'association des maisons de quartier de Reims et pour le collectif Festisol Rémois.
Alors Claudine, du Festisol Rémois aussi, et donc faisant partie du CCFD Terre Solidaire.
Et donc Antoine, en service civique pour aider Céline dans le cadre des maisons de quartier.
Bienvenue à tous les trois, vous êtes avec nous pour nous parler de l'édition 2025 du Festisol. Est-ce qu'on peut rappeler pour nos auditeurs ce que c'est le Festisol en local? Je crois que ça dure du 14 au 30 novembre cette année.
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs économie sociale, groupes de citoyens, citoyennes, etc. organisent plus de 4400 animations conviviales et engagées pour donner aux citoyens et citoyennes de tout âge l'envie d'agir pour un monde juste, solidaire et durable.
Alors dans le Festisol, il y a plein d'événements à chaque fois. Ça peut être des rencontres avec des photographes, avec des auteurs, des ateliers où on vient s'instruire aussi. Il y a une vingtaine de structures qui sont liées pour organiser ce Festisol chaque année. C'est ça Céline?
Oui, tout à fait. On est là cette année, on doit être entre 12 et 15 à organiser ces événements.
Super, et je vous propose qu'on débute par le démarrage du festival. J'ai noté le samedi 15, et dites-moi si je me trompe. A priori, ça va danser, c'est ça? Il va y avoir des sacrées animations pour le démarrage du Festisol.
C'est ça, le samedi 15 novembre après-midi, on dansera au Crêpes sur les danses du monde. Tout le monde pourra danser, ça sera participatif. Et sur place, il y aura aussi toutes les associations présentes qui pourront un peu définir ce qu'elles font chacune pour le Festival des Solidarités et aussi pour la solidarité internationale. Le thème de cette année, c'est encore environnement et droits des peuples. Donc on a essayé de développer sur tous les événements, soit plutôt l'environnement, soit plutôt le droit des peuples, et cette année surtout par rapport à l'exil.
Et il y a plein de choses qui se passent, notamment chez nous, à Orgeval. Il y a dans la première semaine d'événements, le mercredi 19, un rendez-vous qui est proposé en après-midi à la maison de quartier. Vous nous en parlez ?
Je veux bien vous en parler puisque je suis actrice de cet événement. C'est-à-dire qu'on va raconter une histoire tout autour d'une maquette que nous avons créée ensemble et qui va raconter un petit peu comment on peut aménager l'eau. Tout ça, on découvrira.
C'est une animation qu'on peut faire en famille, donc c'est l'idée de cette rencontre.
C'est ça, tout à fait. C'est une animation en famille. Les enfants pourront être acteurs, les parents pourront aider et on expérimentera aussi. L'objectif, c'est de montrer que l'eau, c'est quelque chose de précieux, qu'il va falloir de plus en plus ménager. Et puis aussi, comment on peut regarder ce qui s'est fait là-bas et ce qui se fait ici. Parce que notre maquette, elle représente le Maroc. Tout ça, ça sera ludique et raconté plein de bonne humeur.
Et pour aller plus loin, Didier Martz, propose les vendredis de la philosophie autour de la thématique de l'eau, justement pour voir un petit peu le point de vue des philosophes sur cette denrée qui est très précieuse.
Donc on va parler de l'eau, mais on va aussi se rendre dans des salles obscures, vous proposer à chaque fois des courts-métrages, et pas que, dans divers lieux. Et il y a notamment un rendez-vous autour d'une association qu'on aime beaucoup chez Radio Primitive, mais qu'on n'a pas encore eu l'occasion de recevoir, c'est les Dromadaires Blancs.
Oui, c'est le film Tous contre l'excision, un film qui a été réalisé par l'association Dromadaires Blancs avec Jean Doumbé, et en partenariat avec l'association Cisolré, qui est une association belge qui héberge des femmes qui ont subi ou des violences, enfin qui sont un peu perdues. Et au départ, c'était beaucoup de femmes qui venaient de l'étranger et qui étaient arrivées en France pour fuir l'excision de leur fille. Après le petit court-métrage de 15, 20 ou 30 minutes, il y aura une petite table ronde avec donc la militante de l'association Cisolré, Samia Youssouf. Il y aura aussi une avocate, hein, Maître Aurélie Gabon, et un gynécologue obstétricien. Tout ça pour expliquer comment les femmes qui fuient en fait la problématique de l'excision peuvent défendre leur demande d'asile auprès de toute la juridiction française et des administrations, parce que c'est vraiment un combat. Tes trois intervenants vont pouvoir nous parler effectivement de ce problème de l'excision et de l'exil, et de comment on défend son dossier auprès des administrations françaises et des juridictions. Et en fait, le lendemain, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, on a la folie décoloniale, Rwanda, racisme et psychiatrie, une conférence gesticulée de Sandrine Gachonga, qui, elle, en fait, explique à quel point cet exil peut avoir... Enfin, toutes les procédures administratives peuvent impacter la santé mentale. Déjà, il y a le trauma qu'on subit parfois quand on fuit son pays. Qui dit trauma dit parfois, comment on appelle ça, amnésie, en fait. L'esprit fait en sorte d'oublier les traumatismes qu'on subit. Et quand on arrive en France... Bim, ben faut tout raconter en fait, et faut aller dans les détails les plus obscurs, les plus sombres, pour pouvoir défendre sa demande d'asile, ce qui est complètement anti-naturel, quoi. Ça va complètement à l'encontre en fait, enfin contre nos mécanismes psychologiques. Donc voilà, en fait, elle va parler un petit peu de tout ça. Et donc le lendemain, on aura aussi un débat après sa conférence gesticulée avec Émilie Marchal, qui est psychologue clinicienne au CADA, au pôle départemental de la Croix-Rouge française. On aura Fabien Tarit, qui animera l'échange, qui est militant RUSF, Réseau Université Sans Frontières, et aussi le CPCR, Collectif des Parties Civiles du Rwanda, avec Alain Gauthier, qu'on a invité puisque Sandrine Gachonga est rwandaise et a fui en fait le génocide. Donc voilà, on préférait avoir le CPCR à nos côtés pour rebondir si des questions venaient à être posées à ce sujet-là.
Ça se passe à Sciences Po.
Tout à fait.
Le mercredi 26.
On marque une petite pause dans cette présentation du Festisol Rémois et on se retrouve juste après le duo rwandais The Good Ones sur Radio Primitive.
Imbabaza muntu wanjye w'intera gahinda, nuramukumbabaje leta y'ubumwe iramuza. Imbabaza muntu wanjye w'intera gahinda, nuramukumbabaje leta y'ubumwe iramuza. wanje winera gainda Uimbabaza munu wanje winera gainda Nura mukumbaba jereta yubu miramoza Uimbabaza munu wanje winera gainda Uimbabaza munu wanje winera gainda Nura mukumbaba jereta yubu miramoza Washington nyenyeri America Washington nyenyeri America Irasano tunyange turi ku misozi Irimo amataje agera ku juru Ibibuga by'indege n'imihanda myiza cyane America nakunze igendo ryogoza Mu bihugu byo mu isururu kerereza Uwaga kugusura yifuza kubaba
Sur Radio Primitive, découvrez le programme du Festisol de Reims. Le Festival des Solidarités, c'est aussi pour célébrer une solidarité qui se voudrait internationale. Et on sait que, en ce moment, c'est pas si facile. Et pour cela, vous avez aussi des moments de fête, comme ce même mercredi 26, la fête des Solidarités que vous faites juste avant le rendez-vous à Sciences Po. Ça, c'est un peu votre rendez-vous qu'on retrouve à chaque fois dans cette fête des Solidarités.
Alors, elle prend des formes différentes à chaque fois, mais on fait toujours, on espère, enfin, on parvient toujours à proposer un événement un peu festif, convivial. C'est important, effectivement, puisque comme on se questionne sur des sujets sociétaux, c'est pas toujours très joyeux, effectivement. Donc là, voilà, on a cette fête des solidarités qui va être très très sympa au foyer Gentil-Bierge pour aller à la rencontre de jeunes en situation de handicap. Ça va être très convivial, un moment assez amusant aussi à partager.
Tout le monde peut venir, encore une fois.
Tout à fait.
Justement, tu mentionnais tout à l'heure Fabien, qu'on connaît plutôt bien à Reims, puisqu'il est aussi dans les luttes pour les réfugiés en local et dans les expositions que vous allez proposer. Il y a des choses qui se font en lien avec les personnes réfugiées. Est-ce qu'on peut parler des deux expositions que les auditeuristes de Radio Primitive pourront retrouver tout au long du Festival des Solidarités, c'est-à-dire du lundi 17 au vendredi 28 novembre?
Alors, on a l'expo pour faire le lien avec Fabien, qui est impliqué voilà, dans le collectif Sauf qui peut, par exemple, qui interviennent auprès des personnes qui sont au foyer, dans le parc Saint-Jean-Perse. Et donc, du coup, en fait, là, on a une petite expo qui est proposée pour comprendre un petit peu comment ça se passe au quotidien pour eux et pour savoir comment on peut les aider efficacement. Puisque il ne s'agit pas forcément d'arriver avec un sac de fringues, de le poser là et puis de repartir, quoi. En fait, les bénévoles qui passent du temps là-bas vont nous expliquer comment faire pour les aider au mieux. Alors le sac de fringues, il peut être utile, mais peut-être qu'il peut être donné à un bénévole qui a déjà rassemblé des choses, qui sait quels vêtements sont utiles à tel moment, s'il y a des enfants, pas des enfants, etc. Donc parfois, c'est aussi bien de prendre contact avec des bénévoles qui vont régulièrement, sans forcément s'empêcher d'aller sur le parc à la rencontre des réfugiés, puisque ça, c'est toujours pour eux, je pense, que de voir qu'il y ait des gens qui sont là, qui viennent discuter avec eux, passer un moment, ça c'est précieux aussi, il n'y a aucun souci là-dessus.
Donc une expo sur leur quotidien, mais une expo qui se fait aussi le relais de leurs besoins quand même, puisque tu parlais de choses qu'on pouvait leur apporter. Ça se passera donc à la maison de quartier Trois Piliers.
Tout à fait, voilà, avec un focus, un petit événement quand même pour rassembler autour de ça. Le jeudi 27 novembre, avec une lecture de texte qui aura été rédigée par ceux qui aiment écrire, qui s'appelle « Lettre à mon pays ».
Il y a une deuxième exposition. Cette fois-ci, elle nous emmènera sur le quartier Croix-Rouge de nouveau.
Alors, l'exposition Les Rescapés du Darfour sera accueillie au pôle santé faculté médecine pharma à Croix-Rouge. Voilà, on est content, c'est un nouveau lieu pour nous. Avec Médecins sans frontières qui organise cette exposition. Un vernissage le vendredi 21 novembre pour aller à la rencontre des équipes. Cette exposition a été réalisée par un photographe qui est allé au Soudan et au Tchad pour en fait voir un petit peu comment les humanitaires accompagnaient l'exil. Un exil qui n'est pas toujours facile, parfois on reste coincé à certains endroits, enfin, faut venir pour comprendre tout ça. C'est une exposition qui est vraiment très intéressante. Encore une fois, pour faire le lien avec celle qu'on aura à Trois Piliers, là ce sont encore des gens qui viennent en aide à des personnes qui sont sur la route, pour le coup. Donc voir comment ils agissent, quelles actions ils mettent en place pour pouvoir accompagner ces personnes.
Et Médecins Sans Frontières nous proposera aussi le vendredi 21 un ensemble de courts-métrages à partir de 19h. Et là, c'est plutôt pour parler de la problématique de l'exil en Libye. Voilà, pour voir un peu les migrants qui transitent par la Libye. Voilà.
Pour avoir une multiplicité de points de vue, et ça se déroulera donc au Centre international de séjour, c'est ça ?
C'est ça, au Centre international de séjour à 19h.
Alors là, évidemment, on n'aura pas fait le tour du programme très riche que vous proposez pour la globalité du Festisol, mais si les Rémois, les Rémoises, ils veulent participer, ils veulent avoir un œil sur les événements que vous proposez, où est-ce qu'ils doivent se diriger ? Où est-ce qu'ils peuvent avoir les informations pour savoir s'il faut s'inscrire en amont, par exemple, ou pas du tout ?
Alors, il y a quelques animations où il faut s'inscrire. La conférence gesticulée et le spectacle. Et le spectacle, là, il faut absolument s'inscrire. En fait, on peut retrouver toutes les informations sur le site du Festival des Solidarités et aussi sur le site des Maisons de Quartier de Reims, où tous nos événements ont été référencés.
Et le site du Festival des Solidarités, c'est www.festivaldessolidarités.org.
Et on voudrait juste redire qu'on a l'habitude aussi d'avoir des partenariats habituels, on va dire. Entre autres, il y aura le film du Festival alimentaire à l'Opérins. Et puis, une dédicace de l'historien Alain Kenfac qui nous dédicacera son livre « Bimbia ». Voilà, qui propose une rétrospective sur une période sombre de l'histoire, l'esclavagisme.
Alors pour compléter sur le partenariat, cette année on a Transdev aussi qui nous donne un coup de pouce pour les gens qui sont très impliqués dans le festival, notamment les personnes qui vont présenter des danses au Creps. Elles auront droit à des tickets journée pour aller sur les autres événements du festival, dont tickets de bus. Offert par Transdev. Et du coup, on a quand même, je me permets d'en parler, tout un projet sur la notion d'anthropocène qui va se mettre en place et pour lequel on a un soutien de la politique de la ville, du Grand Reims. Donc il y a des ateliers de travail sur la pierre, des ateliers d'expression corporelle, un spectacle, tout ça. C'est vachement intéressant et ça se retrouve sur le festivaldessolidarités.org.
Vous avez presque toutes les infos entre vos mains. N'oubliez pas, le Festisol, c'est du 14 au 30 novembre à Reims, mais aussi un peu partout en France. À deux pas de chez toi. Et maintenant, chers auditeurices de Radio Primitive, écoutez bien, un rendez-vous unique se profile à Reims. La parole sur Radio Primitive est désormais au docteur Moussa Badran et Amandine Andruchiv qui sont venus vous parler d'un colloque qui se déroulera à Reims les 12 et 13 novembre prochains. La thématique de ces rencontres professionnelles, mais également ouvertes au public, c'est l'accès aux soins des personnes en situation de handicap.
Je suis Sarah Moussa Badran, donc chirurgien dentiste et enseignante, maître de conférences universitaire et praticien hospitalier au CHU de Reims. Ma spécialité, et en tout cas mon exercice exclusif, est destiné à la prise en charge des personnes ayant des besoins spécifiques au sein du CHU, mais également en formation initiale et continue au niveau de l'université, donc l'université Reims-Champagne-Ardennes, à l'UFR d'odontologie, où j'enseigne effectivement cette prise en charge spécifique à nos étudiants en chirurgie dentaire.
Et accessoirement, c'est la directrice du site d'appui Champagne-Ardennes de l'ERÉJ.
Tout à fait. Mais comme je n'ai pas l'habitude...
Ça ne fait pas longtemps et on est très fiers de l'avoir avec nous. Et de mon côté, je suis Amandine Andruchiv, je suis docteure en philosophie. Je suis chargée de cours à l'URCA et je suis coordinatrice en fait, du site d'appui Champagne-Ardennes de l'ERÉJ. Les Règes, c'est quoi? On va peut-être le dire maintenant.
Bah oui.
C'est l'espace de réflexion éthique Grand Est. C'est un espace qui est conventionné avec le CHU de Reims et avec l'URCA. Et nous travaillons avec de nombreuses structures sanitaires, sociales, médico-sociales du territoire Champagne-Ardenne. Notre principale mission, finalement, c'est de faire vivre, de susciter, d'accompagner la réflexion éthique dans le domaine de la santé et des sciences du vivant. On aide les soignants, en fait, qui sont face à des situations complexes. On travaille sur des thématiques, je pense par exemple à des thématiques aussi variées que la procréation, le don d'organes, les questions autour de la fin de vie, etc., etc. Voilà.
En plus de l'ERG, donc, que vous nous avez explicité, on se demandait, et je me disais que c'était pas plus mal, de définir aussi ce qu'est l'ERR.
Alors, donc ERR, c'est Espace de Réflexion Éthique Régionale. Et donc, il y a autant d'ERR en France qu'il y a de régions. Dans les grandes régions, depuis la grande fusion de 2016, il y a des sites d'appui. Et c'est le cas pour l'ERG. L'ERG, donc, Espace de Réflexion Éthique Grand Est, a 3 sites d'appui. Un en Alsace, un en Lorraine, un en Champagne-Ardenne. Nous, avec le docteur Sarah Moussa-Badran, on représente la Champagne-Ardenne. Donc, ce sont des structures qui existent dans toutes les régions de France, y compris en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. C'est important de ne pas les oublier. Et donc, notre mission, comme je disais précédemment, c'est vraiment d'aider les professionnels face à des situations complexes dans le domaine de la santé. Quand ils sont dans des conflits de valeurs, des tensions éthiques, on ne sait plus très bien quoi faire dans des situations qui nous mettent un petit peu mal à l'aise. Donc, nous, on est là pour les accompagner. Ce qui est peut-être important de comprendre, on va faire peut-être une précision, c'est que l'éthique, le fondement de la réflexion éthique, c'est quelque chose qui se partage. On ne fait pas de l'éthique tout seul dans son coin, enfermé dans une tour. C'est vraiment des regards pluridisciplinaires qui discutent, qui échangent autour d'une situation complexe. Alors peut-être dernière précision, les espaces de réflexion éthique, donc les ERR, depuis quelques années, je dirais peut-être depuis le Covid ou peut-être un petit peu avant, se sont réunis dans la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique qu'on appelle la CNERR. Et le colloque national des ERR, qui va avoir lieu au mois de novembre et qui est la raison pour laquelle vous nous invitez, et nous vous en remercions grandement. Donc chaque année, ces espaces éthiques se réunissent et organisent un colloque annuel des espaces éthiques. Il y a eu le cas à Lyon, à Toulouse, à Limoges. Cette année, ce sera à Reims et ça sera autour de la question des personnes en situation de handicap.
Alors, justement, ce qui me vient, c'est comment ça se fait que ça s'est implanté à Reims cette année et pourquoi cette thématique ?
Alors, pourquoi cette thématique ? Parce que c'est ma spécialité.
C'est une raison.
C'est une des raisons sur laquelle je suis un peu plus à l'aise que les autres thématiques. Et c'est surtout le 20e anniversaire, en fait, de la loi de 2005 sur l'accès, en fait... Alors, l'égalité des droits, des chances de participation et de la citoyenneté des personnes handicapées.
Qu'est-ce qu'elle disait, cette loi de 2005 ? Est-ce qu'on peut rapidement revenir sur les grandes lignes ?
Alors, c'était une révolution, puisqu'on n'avait rien eu, en fait, depuis 1975. Depuis 1975, plus personne ne s'était intéressé à la question. Et, en fait, la particularité de cette loi, c'est qu'en fait, elle a transformé la position sociale de la personne en situation de handicap, qui, en 75, était considérée comme étant intégrée dans la société via le travail, ce qui excluait un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas travailler. Et la loi de 2005 a la particularité, en fait, de rendre la pleine citoyenneté à ces personnes en situation de handicap en leur ouvrant beaucoup de droits. En général, elle s'est déclinée en 10 branches, notamment la branche autonomie, où il faut effectivement... autonomiser au maximum ces personnes et les intégrer dans la société vivante, quoi, la société civile.
Comme le disait Sarah, c'est une révolution parce que ça permet aussi de sortir, d'élargir la définition du handicap au-delà du seul champ du médical. La question de la citoyenneté devient un enjeu majeur, la question de l'éducation également. Et donc, 20 ans après, nous, on voulait... nous demander. On voulait vraiment réunir des personnes concernées, des soignants, des professionnels, des étudiants. On voulait vraiment faire le bilan. Qu'est-ce qui va mieux ? Qu'est-ce qui a avancé ? Qu'est-ce qui bloque encore et pourquoi ? Et puis, on voulait aussi essayer de comprendre pourquoi, alors qu'il y a des textes, il y a cette fameuse loi de 2005, il y a aussi la convention de l'ONU, il y a eu plein de textes depuis, hein, pourquoi malgré tous ces textes de loi, malgré les belles déclarations, les personnes en situation de handicap, elles rencontrent encore des difficultés, énormément de difficultés pour accéder aux soins, et elles renoncent encore trop souvent à faire certains soins, connaissent des retards de prise en charge, ce qui peut provoquer des vraies pertes de chance. Donc c'était un petit peu ça qui nous... En tout cas, quand on les écoute, quand on écoute les personnes concernées et leurs aidants aussi, il ne faut pas les oublier, c'est ça qui nous a interpellés, c'est cette différence immense entre ce que disent les textes, ce qu'ils sont censés permettre, et la réalité vécue au quotidien, quoi.
Le docteur Moussa Badran et Amandine Andruchiv nous parlent de ce qui sera abordé au colloque national des espaces de réflexion éthique qui se passera à Reims les 12 et 13 novembre prochains. La suite de notre entretien, c'est juste après le collectif à Stéréotypie qui nous chante ce qui les met en colère.
Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère. On m'a crié dessus parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi. Je n'y comprends rien. Mon père aussi me crie dessus. Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre. J'en ai marre des contraintes, le conditionnement tous les lundis, les échauffements de théâtre, ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre. J'aime pas qu'on me dise il faut que tu dormes la nuit, il faut que ça s'arrête maintenant. Je n'aime pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve.
Comment améliorer en pratique l'accès aux soins des personnes en situation de handicap? C'est ce que les professionnels de santé discuteront à Reims lors du colloque de réflexion éthique organisé par l'EREJ. Et c'est notre sujet du jour sur Radio Primitive avec le docteur Moussa Badran et Amandine Andruchiv. Du coup, l'enjeu de ce colloque, c'est de se réunir pour partager des expériences. Expliquez-nous comment vous avez découpé les différents temps de rencontre.
Alors, le premier temps de rencontre, c'est plutôt une conférence inaugurale à trois voix, où nous avons en fait le regard des juristes sur cette loi, puisqu'ils ont, enfin, ils manient plus les textes juridiques pour pouvoir nous expliquer quelles sont les évolutions depuis 2005 à aujourd'hui. Et un regard qui va venir être complété par deux sociologues, dont une personne concernée, qui va pouvoir nous raconter un peu son parcours de vie, son parcours de santé, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus.
Donc oui, le mercredi est vraiment plutôt théorique. Et puis le jeudi, on sera sur quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, pratico-pratique, avec des initiatives concrètes. Il faut bien comprendre que les problèmes auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap et leurs aidants, ils sont vraiment très concrets. Ça peut être des personnes qui sont discommunicantes ou avec des troubles de l'autisme, par exemple, qui doivent aller aux urgences et pour lesquelles leur aidant n'a pas le droit de rentrer. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment cette personne concernée peut expliquer sa douleur alors qu'elle n'a pas son aidant qui peut l'aider? Comment les soignants, eux, peuvent comprendre? Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, une personne en fauteuil roulant qui doit passer un IRM, rien n'est adapté, comment ça se passe? Toi, c'est pareil, hein, tu rencontres vraiment de choses très concrètes, peut-être si tu veux donner un exemple dans ta pratique.
Nous, dans la pratique, c'est plutôt l'accès aux soins bucco-dentaires, qui est en général la dernière roue du carrosse, puisque ce sont des personnes qui ont d'autres priorités. Et bien entendu, la cavité orale passe quasi en dernier dans les diagnostics ou dans les besoins de soins. Et donc, le rôle en fait, de notre service, c'est réellement de permettre à ces personnes d'avoir un accès aux soins, je dirais, comme tout le monde. Alors, l'hôpital n'est pas censé être le premier recours. Donc, le premier recours, c'est plutôt le chirurgien-dentiste qui est à proximité géographiquement. Et donc, normalement, depuis maintenant presque une décennie, nos étudiants sont formés en formation initiale pour pouvoir les prendre en charge, en tout cas détecter et orienter les soins. L'hôpital, c'est le troisième recours. Alors, il nous manquerait dans notre région ce qu'on appelle le deuxième recours, qui est normalement, comme dans les autres régions, réalisé par un réseau de soins. Donc un réseau de soins spécifiques qui pourrait être l'intermédiaire entre le cabinet libéral et le CHU. Le CHU étant doté en fait de plateaux techniques beaucoup plus spécifiques et normalement on oriente en dernier recours à l'hôpital.
Ça fait partie des solutions qui sont déjà menées ailleurs, par exemple,
mais qui ne se trouvent pas en fait chez nous, en tout cas pas en Champagne-Ardenne. Il existe un réseau en Alsace. Mmh. Il existe un pseudo-réseau en 10 consultes, mais ce n'est pas encore le deuxième recours à proprement parler en Lorraine. Chez nous, on a en fait le premier recours, donc les chirurgiens-dentistes. Alors certains, effectivement, font le travail et les prennent en charge. Et puis, nous avons d'autres structures, enfin l'hôpital, le dernier recours. Et récemment, il y a eu la mutualité qui prend aussi des personnes en situation de handicap. Donc c'est notre deuxième recours sans être un réseau réel. C'est une répartition territoriale spécifique à la Champagne-Ardenne. Et nous avons également l'handicap Besanne, qui a été ouvert il y a 2 ans et qui permet également un accès au bloc opératoire pour les personnes en situation de handicap, en tout cas pour les soins dentaires.
Parce qu'il y a quand même des choses, des initiatives qui se créent, desquelles on peut s'inspirer et qu'on pourrait peut-être appliquer en local.
C'est vraiment l'objectif du jeudi. Hein. Voilà. C'est le matin présenter ce qu'on fait dans la Champagne et dans le Grand Est. Et le jeudi après-midi, comme c'est quand même un colloque national des RR, que les autres espaces éthiques des autres régions, donc on a des espaces éthiques qui vont venir de Guyane, de Marseille, de Paris, de partout, viennent présenter eux quelles sont leurs initiatives très concrètes. Parce qu'en fait, ce qu'on veut essayer de souligner dans ce colloque, c'est que le problème, c'est pas tant l'individu que la manière dont est organisé notre système de santé, avec ses manquements, mais avec aussi des choses qui pourraient permettre que ça aille mieux. Et c'est pas forcément la personne qui est handicapée, c'est vraiment notre société qui handicape par la façon dont elle est organisée et qui souvent est mal adaptée. Et là, on touche vraiment au cœur de la question éthique, puisque c'est un colloque quand même éthique, c'est qu'on considère, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on considère ces personnes comme des objets de soins à prendre en charge ou comme des sujets de droit à prendre en soin? Et là, il y a une nuance qui est très très importante, et c'est passé d'une logique où on fait les choses pour eux à une logique où on fait les choses avec eux et où on les considère comme des acteurs de leur propre santé. Et pour nous, c'était un des enjeux quand on a imaginé ce colloque, c'est réfléchir ensemble à comment on change aussi le regard de la société, comment on transforme nos pratiques et comment on partage ces retours d'expérience pour améliorer ce qui peut l'être encore.
Parce que l'expérience a montré que c'est bien la représentation du handicap en lui-même qui faisait barrière en fait. Et tant qu'il n'y a pas eu cette rencontre et cette habituation, et il est très compliqué en fait d'avoir des relations entre guillemets ordinaires.
Alors là, vous parliez de personnel de soins, des gens qui travaillent dans ce domaine-là, mais ces rendez-vous, ils ne sont pas adressés qu'à ce type de public en fait.
Tout le monde est le bienvenu pour réfléchir avec nous.
Exactement.
Il y aura des étudiants.
Il y a aussi le médico-social, tous les aidants, les
beaucoup
professionnels,
d'assos.
Beaucoup d'associations d'aidants. Donc de personnes en situation de handicap et puis les personnes concernées qui viennent parler effectivement de leurs besoins.
Travailleurs sociaux, directeurs d'établissement, infirmiers, aides-soignants.
C'est vraiment, c'est pas destiné à une population particulière.
Où est-ce qu'on peut retrouver le programme de ces 2 jours pour que les gens puissent aussi le parcourir et puis et vous rejoindre?
Sur notre site internet et sur notre compte LinkedIn. Ça sera sur le campus Croix-Rouge.
Donc à l'URCA, l'Université de Reims.
Dans l'Amphi 10.
Qui est la faculté de droit qui nous accueille gentiment, justement, pour la thématique juridique concernée.
Donc le colloque est gratuit. C'est sur entrée libre, sur inscription obligatoire par contre pour des raisons logistiques.
Comment on fait pour s'inscrire ?
Sur notre site internet également. Vous aurez absolument toutes les informations, le lien, pour le formulaire d'inscription. Vous aurez même le livret avec les petits lieux. Tout est marqué sur cette page internet.
Merci à nos invités d'être venus nous parler de ces rencontres qui feront bouger les choses. Je vous rappelle que le colloque des réflexions éthiques se passera donc à Reims les 12 et 13 novembre prochains. À deux pas de chez toi, c'est terminé.